Les shiurim, c'est Madame Malka comme tous les shiurim. Ce mois sont le Ilou Nishmat Michel Malka Joa Bat Dona Sananes. Madame Malka est pour la refoua Shlema d'Abraham Bendina, c'est Monsieur Mergi qui a eu un accident à Londres. Et pour la refoua Shlema de Léa Bat Henriette. On a vu ce matin, dans la Kriyat HaTorah, on a vu comme Hachem a parlé au Bnei Israël, il leur a donné les fameuses 10 paroles, avec un petit peu de préparation jusqu'à être capable d'entendre ces 10 paroles. Par la suite, tout le monde sait que la phrase caractéristique de l'acceptation de la Torah en général, de la Seret HaDibrot en particulier aussi, par les Bnei Israël, c'est ce fameux Naase Benishma. Naase, nous ferons et nous entendrons, c'est-à-dire cette inversion de l'ordre naturel des choses. Dans la Gemara, dans Shabbat, Akadosh Baruch Hu s'est étonné de cette capacité qu'ont eu les Bnei Israël de dire ce Naase avant le Nishma. Il y a beaucoup à dire, il y a énormément de terutzim, d'explications sur cet ordre que les Bnei Israël ont choisi. Je vais rapporter ici un enseignement du Gaon de Vilna. Il dit la chose suivante. Dans le Sefer Dvarim, on voit que quand Hachem a donné la Torah au Bnei Israël, il l'avait préalablement proposé à tous les peuples. Et le Gaon dit, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a proposé à Esav d'accepter la Torah, Esav a refusé. Alors Akadosh Baruch Hu lui a dit, dans ce cas, tu dois donner quelque chose à Israël, parce que toi aussi tu devais accepter la Torah. Israël doit l'accepter, va l'accepter, mais d'une certaine manière, puisque toi tu n'acceptes pas, Israël va accepter aussi à ta place. Donc il faut que tu paies Israël, il faut que tu leur donnes quelque chose qui est vraiment de toi, à toi, puisque tu te dispenses d'accepter la Torah. Et cette dispense, tu ne l'as que parce que Israël accepte. Donc donne-lui quelque chose qui vienne de toi. Et le Gaon continue et il dit, c'est probablement construit sur un Zohar, mais le Gaon, à ma connaissance, il ne cite pas le Zohar. Ce qu'il lui a donné, ce que Esav a donné à Israël, c'est la Mida, cette capacité de dire Naase. Parce que Naase s'est construit à partir du nom d'Esav. Esav, c'est Asso, il est fait. Donc la Atiya, c'est la même racine que Esav. Donc il lui a donné une partie de lui qui est la capacité de faire. Et vous avez probablement tout de suite compris que quand Hachem s'est adressé à Ishmaël et qu'Ishmaël a refusé, on a le même scénario et Ishmaël a dû donner la Shmiya, Naase Venishma, qui est construit à partir de la même racine que Ishmaël. Et donc, quand dans la Gemara, Akadosh Baruch Hu, enfin la Gemara dit que Akadosh Baruch Hu a demandé Migila, qui a dévoilé ce secret dont les anges font usage à mes enfants, au Bnei Israël, le secret en question c'est quoi? C'est les Bnei Israël qui ont déjà, ils ont reçu le Naase d'Esav, ils ont reçu le Nishma d'Ishmaël, et leur, le Sod, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, les Bnei Israël? Ils ont mis dans le corps. C'est l'ordre, Naase v'Nishma, c'est ça le secret. Mais le Naase et le Nishma, l'appel Gaon, il vient des Umot HaOlam, parce que Esav et Ishmaël, c'est l'ensemble de tous les Umot HaOlam, c'est l'ensemble de tous les peuples. Dans les 70 peuples, Esav et Ishmaël sont les prototypes, en quelque sorte, ils sont les représentants de tous les peuples. Ça, c'est ce fameux secret. Chose absolument incroyable. Je pense que seul le Gaon pouvait dire. Ensuite, le Gaon ajoute quelque chose qui concerne le changement qui a eu lieu chez les Bnei Israël après l'acceptation de la Torah. C'est un midrash, midrash Wout sur Vayi, Vimei, Shvot, HaShoftim, sur le premier pasouk de Megillat Ruth. Rabbi Yochanan, Patach Ve'amar, Rabbi Yochanan a commencé, il a ouvert la discussion, il a dit un verset de Tehilim, Shema Ami Vadabera. Écoute, mon peuple, je parlerai. Et le Midrash demande d'où les Bnei Israël ont-ils eu le mérite d'être appelés mon peuple? Le peuple d'Hachem, c'est quelque chose d'impensable. Comment un peuple peut-il être le peuple d'Hachem? Hachem est le maître du monde. Tous les peuples sont le peuple d'Hachem. De dire que les Bnei Israël méritent d'être appelés amis, mon peuple, c'est singularité du clan Israël. Le Midrash demande, mais d'où est-ce qu'ils l'ont? Et le Midrash dit, il répond, parce que devant moi, au Sinaï, vous avez dit Naase Benishma. On sait que la notion de Dibour, par opposition à Amira, Dibour c'est un lachon caché, c'est-à-dire Dibour, Dibour, on l'entend bien, c'est dur, c'est une parole dure. Et la Amira, Omer, c'est doux, c'est rond, si vous voulez. Le Gaon de Vilna ajoute une autre définition, une autre différence. Le Gaon dit que Dibour, c'est sans raison, sans ta'am. C'est ainsi que j'ai ordonné de parler. Amira, c'est parler à l'autre en lui disant la raison de l'ordre qui lui est donné. Alors il a expliqué que dans Parshat Va'etranan, quand les Israël ont entendu les paroles qu'Hachem leur avait dites, le Dibour au Sinaï, ils ont dit on ne peut pas accepter. Parce qu'ils ont dit la manamut, kimi kol basar, on va mourir. Qui est-ce qui peut supporter une chose pareille? Qui peut? Nous ne pouvons pas en tout cas. Et ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Kravata, approche-toi, toi, d'Hachem, Ushma, et écoute, Kol Asher Yomar Hachem. Tout ce qu'Hachem dira, Yomar, parole douce. C'est-à-dire, les tamés à mitzvot. Les raisons des mitzvot. Les mitzvot avec leurs raisons. Veata, toi tu vas entendre ça avec les tamim, avec les raisons. Veata, et toi, tedaber eleinu. Tedaber eleinu. Toi tu nous parleras, Dieu, tu ne nous diras pas les tamim à mitzvot. On n'a pas besoin de les, on n'a pas besoin de les connaître en quelque sorte. Par contre, kol asher yedaber Hashem, Elokeinu Elecha, c'est-à-dire toute la partie dure, c'est-à-dire sans ta'am, qu'Hachem te dira et que tu répercuteras pour nous, ça, Shamanu Ve'asinu. Nous allons l'entendre de toi, ce Dvar Hachem, sans ta'am, Ve'asinu, et nous ferons. Le Naase Ve'nishma. Explication. Shema Ami, en Tehilim, Dans le passé, vous étiez Israël. C'est un nom comme celui de tous les peuples. Vous étiez nommé d'après votre ancêtre, d'après Israël, votre ancêtre. Après Kabbalat HaTorah, Hachem vous appelle mon peuple. D'où vient votre nom, mon peuple? De Vadabera, qui veut dire d'où sont-ils arrivés à un niveau tellement élevé? C'est en ayant dit à mon cher Abeinu, Daberata imanu. Ils n'ont pas voulu qu'on leur donne les termes et mitzvot. Ils voulaient accepter ce qu'Hachem avait dit à Moshe pour qu'il le répercute, même s'il n'avait connaissance d'aucun terme. Assis-nous, on va le faire. On accepte l'ordre du roi. Et c'est d'avoir dit donc, Shamanu ve'assinu, sans poser de questions, sans connaître le Tam, c'est ça qui leur a donné cette qualité qui fait qu'ils sont amis. Ils sont mon peuple. La vérité, c'est que ces psukim dans ces venishma, nous les lirons la semaine prochaine. Dans ces venishma, c'est dans Parshat Mishpatim. Semble-t-il, bien que ces psukim parlent de l'acceptation de la Torah, on va en parler la semaine prochaine. Je reviens à ce qu'on a lu aujourd'hui. Il se passe quelque chose d'extraordinaire. Le Mesher Chochma fait remarquer que nulle part dans toute la Torah on trouve une expression comme Bachodesh HaShlishi. Sans le Vav. C'est toujours marqué ou Bachodesh, ou Bachodesh HaShvi, ou Bachodesh HaShlishi, ou. Et un Vav toujours. Ici, il n'y a pas de Vav. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a ici une rupture radicale. Quelque chose change du tout au tout. Bachodesh HaShlishi, c'est à peu près comme. Sans qu'il y ait quoi que ce soit avant. C'est comme au moment de Bereshit. Il n'y a pas d'avant. On ne parle pas d'avant. Rupture complète. C'est le début d'un nouveau texte. Qui commence, comme je vous dis, comme le récit de la création. Sans connexion du tout avec un autre texte. Il n'y a pas de vav qui le lie avec un texte précédent. Le peuple, ici, Bachodesh HaShlishi, là on dit seulement Kabbalat HaTorah, enfin pas Kabbalat HaTorah, tu vois, seulement les paroles, Hachem a parlé les Aseret HaDibrot. Si on y regarde d'un peu plus près, ça c'est dans Parshat Mishpatim, dans le chapitre 24, donc Parshat Mishpatim, dans presque à la fin. Là-bas, le passage commence. Vel Moshe Amar, et à Moshe, Hachem a dit, allez El Hachem, monte vers Hachem, toi, Aaron, Nadab, Abihu, et Shivim, Mizikne Israël, les 70 anciens. Vous vous prosternerez de loin. Et seul Moshe va s'approcher vraiment d'Hachem, les autres non. Et après, le texte dit, Vayavo Moshe, vaysaper la'am et kol divrei Hashem, et kol ha'mishpatim, vayan kol ha'am, kol echad. Les gens, tout le peuple a répondu d'une seule voix, et ils ont dit, kol advarim asher divrei Hashem, na'ase. Il n'y a pas encore dit, na'ase. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu a écrit toutes ces paroles d'Hashem, Et le matin, il a construit un misbéach, construit ce fameux autel, au pied du Sinaï, avec 12 stèles, correspond 12 tribus. Et puis, les prorotes, en fait, parce que la voda à ce moment-là était faite non pas par les Kohanim, mais par les prorotes, par les premiers-nés. Et eux, ils ont apporté les korbanotes. Vaikach Moshe Rabbeinu a pris, dans les korbanotes, il y a toujours deux parties. Une partie qui est le travail qui est fait sur le sang. On recueille le sang de la Shrita. En général, ce sont des aspersions. Et puis, il y a un travail qui est avec la chair de l'animal. Si c'est une ola, tout est brûlé. Et si ce n'est pas une ola, du shlamim, khatat, c'est mangé ou bien par les propriétaires du korban ou bien par les kohanim. Moshe Rabbeinu a recueilli le sang. Et la moitié du sang, il l'a aspergé sur le misbéat, sur l'autel qui avait été construit. Il a pris, ensuite, il a pris Sefer Abrit. C'est le sujet de ce soir. Il a pris le livre de l'Alliance. Il a lu aux oreilles du peuple. Et là, après avoir entendu cela, les Bnei Israël ont dit « Kol Asher Dibber Hashem Na'ase Ve'Na'aseh ». Alors Moshe a pris l'autre moitié du sang. J'ai dit que c'est un malar qui a partagé le sang pour que ce soit un partage entre deux parts exactement égales. Il met sur le même plan le Misbéach et le clan Israël. Et il a aspergé les Bnei Israël avec ce sang. Et il a dit, voici ce sang de l'Alliance qu'Hachem a faite avec vous sur toutes ces paroles-là. Et ensuite, Moshe Rabbeinu est monté, comme il en avait reçu l'ordre. Bon. Ce texte-là, dans Mishpatim, qui est écrit donc après la Aseret HaDibrot, après qu'Hachem ait donné la Aseret HaDibrot, ce texte-là, Rashi dit qu'il n'est pas à sa place. Rashi dit, ce texte-là, il précède les Aseret HaDibrot, il précède ce qu'on a lu ce matin. Le Ramban et les autres ne sont pas d'accord avec Rashi, mais le texte, il penche un peu du côté de Rashi, autant que je comprenne. Il se passe quelque chose de tout nouveau, comme je vous ai dit. Quelque chose de qui commence à Bochodesh HaShlishi, qui continue ici. Alors, il va falloir qu'on y regarde d'un peu plus près pour savoir, il y a plein de choses qui sont étranges là. Rashi considère donc ce qui racontait là, cette période-là, comme une période de préparation à la révélation du Sinaï. Mais il considère que c'est la période fondamentale de l'alliance. Il y a une alliance avant qu'Hachem ne parle pour Rashi. Hachem ne parlera pas avant que les Bnei Israël soient entrés dans une alliance avec Hachem. Mon cher Abou va raconter quelque chose, il va leur dire quelque chose qui est dans ce fameux livre. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Qu'est-ce qu'il y a dans ce fer à bris? Qu'est-ce qui est. C'est quoi? On va voir ce que c'est que le bris, ce que c'est que l'alliance. Mais auparavant, on va voir ce qu'il y avait dans dans le Sefer Abrit, de quoi ça parle? Qu'est-ce qu'il a lu, mon cher Abel? Qu'est-ce qu'il a... Il leur a dit, il l'a écrit, puis il l'a relu. On suit donc Rashi. Donc Rashi dit, les versets sont écrits dans Mishpatim, après Matan Torah, mais Rashi dit, tout ça, ça a eu lieu avant. On s'est marqué au début de la parasha. Vel Moshe Amar, c'est là que Rashi dit, cette parasha-là, elle est avant Aseret HaDibrot. Elle a été donnée le 4 Sivan. La Torah devait être donnée le 6. Vous savez bien qu'elle a été donnée le 7 parce que Moshe Rabbeinu a ajouté un jour. Hachem lui dit de monter sur la montagne. Rashi dit, tu vas monter sur la montagne, et Rashi dit 40 jours. Et je te donnerai, etc. Va lui donner, a priori c'est toutes les 613 mitzvot qui sont incluses dans les 10 paroles. Rashi rapporte que Rav Sadia Gaon l'a expliqué dans ce qu'il appelle les Hazarot, que les Faradim lisent l'après-midi de Shavuot. Il a montré comment les 613 mitzvot sont incluses dans les 10 commandements. Dans les 10 paroles. Le travail de Rav Sadia Gaon. Mais avant cela, mon cher Rabbeinu obéit à Hachem. Et c'est marqué, Vayavo Moshe, Vaisaper Laam. Et le peuple a répondu, là, c'est sans le Nishma. Donc pour Rashi, les jours qui précèdent la Aseret HaDibrot sont consacrés à l'Alliance et à la lecture de Sefer Abrit. C'est faire de l'alliance que Moshe Rabbeinu a préalablement écrit. Et enfin, dans le quatrième pasouk, Rashi dit, Moshe a écrit, dans Sefer de Abrit, il a écrit depuis Bereshit jusqu'à Matan Torah. Et ensuite, il a ajouté les mitzvot qui ont été données à Mara. Avant d'arriver au Sinaï, les Bnei Israël ont passé par un endroit qui s'appelle Mara parce qu'ils ont trouvé de l'eau amère. Vous connaissez, vous vous souvenez, Moshe Rabbeinu a jeté un bâton qui a adouci l'eau. À Mara, ils ont reçu des mitzvot. Mais ils les ont reçus évidemment de façon allusive. C'est pas marqué dans la Torah les mitzvot qu'ils ont reçus. Et puis, il a aussi ajouté les 7 mitzvot des Bnei Noir. C'est ça le contenu de Sefer Abrit. Un narratif, si vous voulez, comme on dit aujourd'hui, depuis Bereshit jusqu'à Matan Torah, plus des mitzvot, parce que dans Bereshit, il n'y a quasiment pas de mitzvot, les 7 mitzvot des Bnei Noir, qui elles aussi n'ont été données que de façon allusive, ne sont pas explicites, les mitzvot qui ont été donnés pour l'humanité dans la version noire, c'est-à-dire comme le Rambam, on verra le Rambam après, et puis les mitzvot qui ont été donnés au clan d'Israël à Mara. C'est ça qu'il a lu. Toute la révélation, tout le Sinaï, toutes les paroles d'Hachem au Sinaï, pour Rachid, sont quasiment dans l'ombre ici. Parce que lui, il parle essentiellement de Sefer Abrit. Moshe raconte premièrement ces paroles d'Hachem, il les écrit et il les lit publiquement. Ce sont donc des instructions pour se préparer à la révélation. Mais à ce stade-là, que sont les lois dont parle Moshe ? Raconter la création du monde, raconter tout ce qui s'est passé en Égypte jusqu'au moment où on sort d'Égypte et on arrive au pied du Sinaï, ok. Ça deviendra Torah, ça. La Torah, a priori, c'est ce qui s'est passé du vivant de Moshe Rabbeinu. Mais cette partie-là, Hachem l'a dû l'enseigner à Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu, évidemment, n'était pas là pendant ce temps-là. Ça, ça fait partie du Sefer Abrit. C'est le livre de l'alliance. Il y a une alliance qui est scellée, qui est faite sur ce livre-là. Par exemple, à Mara, tout ce qui est dit sur Mara, c'est marqué Sham Sam Lo Chok U Mishpat. Et de là, on déduit la halakhot de Mara. C'est marqué là-bas, il lui a donné des lois et le Mishpat. Donc, Rashi fait de ces lois d'avant le Sinaï le sujet de Vaïssaper Moshe. Moshe l'a raconté cela. Donc, quand les Bnei Israël disent Naasé, c'est à quoi qu'ils répondent? À ces lois-là. Aux lois des Bnei Noirs, plus aux lois de Mara. Et pas comme nous on a l'habitude, d'après les autres commentateurs, de dire que le Naasé voulait dire 613. Ils n'ont pas dit Naasé sur 613. Ils ont dit Naasé sur 7 plus Mara. Le Ramban objecte ici, il dit, c'est difficile d'imaginer que Vaïssaper, que le mot il a raconté, peut se référer à des lois qu'on connaît depuis longtemps. Donc c'est un problème entre Rashi et le Ramban. Est-ce que Vaïssaper, ça implique que c'est quelque chose de nouveau? En tout cas, on voit très bien, raconter quelque chose que les gens savent, c'est quelque chose qu'on a vu. On a vu que mon cher Rabbeinu a raconté, ce matin, il a raconté à Yitro tout ce qu'Hachem avait fait pour Israël. Mais Yitro, il le sait, c'est pour ça qu'il est venu. Il est venu parce qu'il a entendu que la chair à ça, Hachem, l'Israël, le Moshe ou l'Amo, à son frère et à son père, à son peuple. Il le sait, alors qu'est-ce que Moshe lui raconte? Il raconte puisqu'il sait déjà. Parce que le récit de Moshe, c'est un récit de joie, d'agitation, ici aussi. Bien sûr, ça couvre l'histoire du monde depuis la création, jusqu'à maintenant. Mais c'est dit par Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que ça veut dire? À ce texte-là, les Israël vont dire Naasé, puis ensuite Naasé Benishma. Avant la lecture, curieusement, il y a les Korbanot. D'accord? Ils ont apporté les Korbanot, Moshe Rabbeinu a recueilli le sang, et il s'est occupé de la moitié du sang qu'il a aspergé sur le Misbeach. Ensuite, il y a l'épisode du Sefer Abrit, qui est écrit et puis lu. Le peuple qui répond à ce Benishma, et ensuite on asperge l'autre moitié du sang sur le peuple. Le Sefer Abrit est donc au milieu, il est en connexion entre Hachem et Israël. Pour Rashi, ce Sefer, c'est la Torah elle-même. C'est-à-dire que Rashi fait un flashback, comme on dit, une autre façon de voir les choses. Il faut que les Bnei Israël, d'après lui, s'engagent dans une alliance. Une alliance qui consiste en 7 principes, les 7 lois naturelles, Noachid, qui ont été données plus tôt. Elles ont été données, on va le voir, dès le début. Donc l'alliance, ce n'est pas la signature d'un traité dont les termes sont donnés de façon détaillée. C'est un engagement qui dépasse de loin, en vérité, tout ce qui est dit explicitement, en fait. C'est pas seulement un problème d'obéissance à ce que Moshe leur dit. C'est un texte qui reste un peu énigmatique. Sa lecture, elle appelle une réponse. On l'a bien entendu, on l'a bien compris. Ce qui dépasse les paroles qui ont été dites par Moshe. Moshe crée un lien entre le lecteur, l'auteur, et l'auditeur. Il y a une rencontre préalable avec Hachem, qui est une condition pour la révélation. Mais il y a une histoire qui, d'une certaine manière, prend fin, écrite, lue et enregistrée. Elle va être la base de la Torah et la condition pour la recevoir. Donc regardez ce qui est étrange, en fait, le Rambam dans Hilchot Melachim, il dit Al Shisha Dvarim Nitztave Moshe Adam Arishon. Adam Arishon a reçu 6 mitzvot. Avodah Zara, le blasphème, le meurtre, les conduites incestueuses, le vol et l'obligation d'établir des tribunaux et de faire donc de, une loi et de faire respecter des lois. Les lois, ils peuvent les fixer comme ils veulent dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les mitzvot qui leur ont été donnés. Et il dit Afalpi shekulan kabbalah hen beyadeinu mi Moshe Rabbeinu. Bien que tout cela soit une tradition de Moshe Rabbeinu. Vadat nota alai. Mais bon, c'est quelque chose, c'est des lois naturelles, si vous voulez. Miklal divrei Torah ire shal eilu nitztava. Quand on regarde la Torah, c'est ici. On voit que les Bnei Israël ont été reçus un ordre concernant les fameux 7 mitzvot qui sont les mitzvot des Bnei Noach. Osif, ça c'est 6. Osif le Noach. Un Noach, on lui a ajouté la 7e mitzvah qui est Ever Minachai. L'interdit de manger de la chair qui a été prélevée sur un animal qui était encore vivant. Voilà les 7 mitzvot. Et Raman continue. Donc, a priori, ça c'est des mitzvot que nous on appelle mitzvot des Bnei Noach. Ça ne nous concerne pas. On n'est pas des Bnei Noach. Mais on a été des Bnei Noach. Et la question de savoir où est passé notre engagement en tant que Bnei Noach quand on a accepté la Torah, c'est une vraie question. Mais pour Rambam, ce n'est pas une question parce que le Rambam il dit que les 613 mitzvot, elles sont construites avec les 7 mitzvot des Bnei Noach. C'est exactement ce qui se passe dans Sefer HaBrit. Dans Sefer HaBrit, les Bnei Israël ont accepté les 7 mitzvot des Bnei Noach. Il dit « Vechen haya adava » Les choses sont restées en l'état. On est à Noach. Entre Noach et Abraham, il y a 10 générations. Pendant 10 générations, les choses n'ont pas bougé. Alors, Abraham, il a eu une mitzvah, en plus de celle-là, la mitzvah de Mila. Mais c'est sa mitzvah à lui, la mitzvah de Mila. C'est la Mila version Abraham Avinu. Nous, on ne fait pas la Mila parce qu'Abraham Avinu fait la Mila. Nous, on fait la Mila parce que dans Parchat Tazria, c'est marqué au Bayom Hashmini, Yimol. Le 8e jour, on fera la Mila. C'est ça notre obligation de faire la Mila. Ce n'est pas du tout le fait qu'Abraham Avinu ait reçu la mitzvah de Mila. La mitzvah de Mila d'Abraham Avinu, elle concerne les Bnei Ketura, elle concerne peut-être les Arabes éventuellement qui sont astreints en tant que descendants d'Abraham par Ishmaël ou par les Bnei Ketura. Et eux, ils sont obligés de faire la Mila. Mais le Rambam, il dit pas comme ça. Le Rambam, il dit, on a ajouté une mitzvah, donc on est à 8 avec Abraham. Vous comprenez très bien, c'est la 8e, c'est la Mila, vous comprenez tout ce qu'il y a derrière le chiffre 8. Bon, on ne va pas en parler de ça maintenant. Ve'uit palel shacharit. Et Abraham Avinu, il a prié shacharit. Ce n'est pas qu'il n'a pas prié les autres, mais il a instauré la prière du matin. Et du coup, on nous dit, Ve'yitzhak ifrish maaser. Yitzhak Avinu, il a ajouté la mitzvah de prélever la dîme, le maaser. Ve'osif tfilat, fila acheret. Et il a ajouté une fila vers la fin du jour. C'est la mincha. Donc on était à 8 avec Abraham. Et il y en a 2 supplémentaires avec Yitzhak Avinu. On est à 10. 10 mitzvot. Yaakov aussi guide un haché. Et Yaakov, il a ajouté guide un haché, l'interdit de consommer la viande qui est autour du nerf sciatique. Vite palais l'arbitre. Et lui, il a prié, a instauré. Arbitre, ça, c'est pas très clair, en fait. Parce que l'arbitre n'a pas exactement le même statut à l'Afrique que Shacharit et Mincha, mais le Rambam, il ne fait pas la différence ici. Donc, on est ici à 11, c'est ça? Guinage 12. Ube Mitzrayim et en Égypte, Nitztave Amram be Mitzvot Yeterot. Amram, le père d'Abraham, le père de Moshe Rabbeinu, il a reçu d'autres mitzvot. Et le Rama n'en dit pas un mot, il ne dit pas ce que c'est. On ne sait pas. Hatsheba Moshe, Moshe Rabbeinu, pardon, Venishlema Torah Aliado, jusqu'à ce que Moshe vienne, et la Torah est complétée par Moshe Rabbeinu. Alors certains disent que la mitzvah que Amram a ajoutée, c'est la Chupa, Kiddushin, comme il s'est remarié avec Yocheved. Donc c'est de là-bas, il a... Bon, peu importe. En tout cas, Moshe Rabbeinu n'apparaît pas comme donnant 613 mitzvot sur l'ordre d'Hachem, mais comme étant celui qui va compléter. On était à 12, 13, 14, je ne sais pas combien ça fait avec Abraham. Donc il y a une quinzaine de mitzvot, et puis on va aller de 15 à 613. C'est Moshe Rabbeinu qui va compléter. On ne comprend rien du tout. Depuis quand, à part le Rambam ici, d'habitude on considère que 613 mitzvot, c'est Moshe Rabbeinu qui les a donnés. C'est Hachem qui a donné les mitzvot à Moshe Rabbeinu. Alors qu'ici, c'est construit. Alors, vous voyez, entre autres, que il a utilisé que les Sheva Mitzvot des Bnei Noach, il n'a pas utilisé les Mitzvot de Mara. À moins qu'ils disent que ça, c'est aussi dans ce que Moshe Rabbeinu a complété, parce que c'était autant de Moshe Rabbeinu qu'on a donné Mara, les Mitzvot de Mara, pardon. Les Mitzvot de Mara, c'est Shabbat, c'est Kibouda Vahem, c'est Parah Aduma. Voilà, donc, ça va très bien, si vous voulez, en tout cas avec le Sefer HaBrit, où effectivement les choses sont présentées comme quelque chose que les Sheva Mitzvot des Bnei Noach, les Bnei Israël, ils ont accepté. Donc je voudrais ajouter la chose suivante. Le Rambam, juste avant ce chapitre concernant la structure des mitzvot, il parle des Bnei Noach. Il y a tout un chapitre sur les Bnei Noach, il y en a plus qu'un d'ailleurs. Et il dit, Kolam Kabel Sheva Mitzvot, tout celui qui accepte les sept mitzvot, Venizar la Sotan, il fait bien attention de les pratiquer, ces sept mitzvot, Areze Mechaside Umotaolam, il fait partie de ce qu'on appelle Chaside, les pieux parmi les peuples. Ah, c'est les gens pieux parmi les peuples. Veyesh lo chelek le'olam haba. Et avec ces sept mitzvot-là, yesh lo chelek le'olam haba, il a part au monde à venir. Il n'y a pas de restriction, c'est pas il a part au monde à venir, mais il sera là-bas au poulailler, il ne sera pas dans les premiers rangs, etc., au théâtre. Non, non, c'est pas au monde à venir, comme les Bnei Israël. Vehu, mais après avoir dit ça, il met une condition. Et il dit, Sheikabel otan viase otan, il faut qu'il les accepte et qu'il les fasse, ces mitzvot, mipnei shetziva ba'en akadosh baruch hu batorah, veodienu al yede Moshe Rabbeinu. Shebnei Noach mikodem nitztavu ba'en. Il faut qu'il accepte, pour devenir Mechassidé au Motaolam, qu'il accepte que ce sont des mitzvot qui ont été donnés par Hachem, et que nous on les connaît à travers Moshe Rabbeinu, on les connaît à partir de Moshe Rabbeinu, ces mitzvot, c'est-à-dire qu'à travers Moshe Rabbeinu, on sait que les Bnei Noach sont astreints à ces mitzvot depuis toujours. Donc, depuis Adam Arishon plus Noach, 6 pour Adam, 7e pour Noach, que ça vient d'Hachem, et d'où est-ce qu'on sait, quelle est l'autorité qui nous dit qu'il y a ces 7 mitzvot? C'est Moshe Rabbeinu. Donc ça veut dire, d'une certaine manière, ici c'est pas marqué, c'est marqué Chassidé au Mota Olam. Donc, les Bnei Israël, qui à ce moment-là ne sont pas encore, si on peut parler comme ça complètement, les Bnei Israël, ils sont encore des Bnei Noach. Les Bnei Israël, initialement, ils sont des Bnei Noach, comme tout le monde. l'humanité tout entière était Bnei Noach. Donc, eux, les Bnei Israël sont, s'ils acceptent ce qui est écrit dans le Sefer HaBrit, ils deviennent comme les Chassidés au Mont HaOlam. Parce qu'eux, ils ont accepté que ça vient de Moshe Rabbeinu, de l'Epar Hashem, et c'est attesté, et on atteste ainsi que ça vient depuis la nuit des temps, et c'est Moshe Rabbeinu qui nous l'enseigne. C'est lui qui nous le dit. Donc, quelque part, les Bnei Israël, avant d'entrer, avant de recevoir les Aseret HaDibrot, avant de recevoir ces Aseret HaDibrot, dont Rav Sadia Gaon montre qu'elles contiennent toutes les mitzvot, les Bnei Israël ont accepté une alliance avec Hachem, dans laquelle ils deviennent, sur le plan de cette mitzvot en question, comme les Chassidei Umot HaOlam. Qu'est-ce que c'est que ce brit? Qu'est-ce que c'est un brit? Qu'est-ce que c'est une alliance? Alors, le Gaon de Vilna donne une définition de cette alliance. Et il décrit la chose de la manière suivante. Il parle de cela dans son commentaire de Sefer Yetzirah. Il dit, un homme qui a un ami très cher, il ne veut pas s'en séparer, mais ils ne peuvent pas être ensemble. Alors il lui donne quelque chose qui lui tient à cœur, et par là ils sont liés. Le brit, c'est une promesse que grâce à cette chose-là, il est certain qu'il ne se séparera pas de lui. C'est pour ça qu'on dit « koret brit ». On coupe une alliance. On tranche une alliance, si vous voulez. C'est-à-dire, on coupe quelque chose de soi et on le donne à l'autre. La Torah et la Mila, de ce point de vue-là, sont entre Hachem et Israël, dans cette alliance, puisqu'on ne peut pas accéder, évidemment, à Hachem. Et les Bnei Israël ont besoin, par la suite, on voit qu'ils ont eu besoin d'un Mishkan, d'un Mikdash, etc., qui sont, d'une certaine manière, des intermédiaires. C'est très dangereux de dire ça, mais ce sont des intermédiaires. Et dans tout ce qui concerne le Mikdash ou le Mishkan, déjà, hein, c'est caractérisé par le fait que si on change quoi que ce soit dans les directives qui ont été données pour construire le Mishkan, on est dans l'idolâtrie. C'est-à-dire que le Mishkan, c'est sur le fil du rasoir. Tu fais exactement ce que je t'ai prescrit, c'est Avodat Hashem. Tu bouges un tout petit peu, tu es dans Avodat Zara. Imaginez, vous avez le plus beau diamant du monde. Et vous avez décidé de l'enchâsser sur le couvercle du Aron HaKodesh. Magnifique. Si vous faites ça, c'est idolâtrique. Parce qu'on n'a pas le droit. Les crouvimes, ils sont en or. Si vous pensez que les crouvimes seraient plus beaux en argent, et vous remplacez les crouvimes en or par des crouvimes en argent, à vos nazara, vous êtes dans l'idolâtrie. On ne peut rien changer. Même la fameuse mitzvah qui consiste à faire ce qui s'appelle hidur mitzvah, d'embellir une mitzvah, ça ne s'applique pas dans la construction ou dans la structure du Mishkan. On peut embellir en apportant, quand on doit apporter, je ne sais pas, une bête en korban, on peut apporter une bête plus belle que les autres. Ça, c'est le Hidur Mitzvah. Mais on ne peut rien faire du tout dans la structure du Mishkan ou dans la structure du Beit HaMikdash. Le Brit avec Hachem. C'est le lien et l'attachement, si on peut dire, que nous avons avec Hachem. Le lien, il est créé par le fait que entre Israël, entre le Créateur et Israël, il y a quelque chose qui est coupé d'Hachem et qui nous est donné à nous. C'est ce fameux Midrash où Hachem dit, vous avez pris la Torah, mais prenez-moi avec. Je ne peux pas me séparer de la Torah. Si on peut dire comme ça, hein, Hachem est lié à nous. Évidemment, sans ça, on n'oserait pas le dire. Mais comment ces louchotes, par exemple, vont être cette espèce d'intermédiaire? La Gemara dans Brachot, elle dit qu'Hachem, à un moment donné, il a dit à Moshe Rabbeinu, maintenant, laisse-moi. C'est la fameuse fois où Moshe Rabbeinu a entendu que c'est de laisse-moi, je t'empêche de faire ce que tu veux. Parce que Hachem avait dit, je vais détruire le clan d'Israël. Et il dit à Moshe, laisse-moi, je vais détruire le clan d'Israël. Moshe Rabbeinu, je t'empêche de détruire le clan d'Israël. Donc il a compris qu'il pourrait l'empêcher, qu'il était en situation de l'empêcher, et donc il s'est activé pour empêcher la destruction du clan d'Israël, et il a obtenu, d'après le Gaon de Vilna, le fameux sursis à la peine de mort pour le clan d'Israël. Malheureusement, le sursis est tombé au moment des explorateurs. C'est pour ça que le clan d'Israël a été à ce moment-là complètement détruit. Mais la Gemara dans Brachot, elle dit, mais maintenant laisse-moi. Et ça nous enseigne, dit la Gemara, que Moshe Rabbeinu tenait, si on peut parler comme ça, comme un homme tient son ami par son vêtement. Et dans le commentaire du Gaon sur Maseret Brachot, il dit, bien entendu, il ne faut pas prendre ça littéralement, mais que toute chose à laquelle Hachem attache son nom est appelée aussi Hachem. Comme c'est marqué, Hachem Olech Lifnehem, qu'après c'est marqué, Vaïssa Malach Hachem Olech Lifnehem. Après c'est un Malach. Les louchot, c'était quelque chose d'énorme. C'est le chet, tout vient d'Hachem. C'est Hachem qui a donné le support et l'écriture. C'est ce qu'on appelle chelek elokam mimal. C'est une partie de la divinité, si on peut parler comme ça, qui vient d'en haut. Et c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas. Il y avait des règles très très strictes quand, à l'époque des Philistins, ça leur a coûté des milliers de personnes qui sont mortes. Elles avaient, ces louchot, une énorme kedusha. Et donc, tout le temps que les louchot étaient dans les mains d'Israël, c'est-à-dire dans les mains de Moshe, on ne pouvait pas détruire Israël parce qu'Hachem leur avait donné quelque chose qui lui appartient. Hachem a donné quelque chose de lui. Les louchot, c'est une part de Chelek Elokam Ima, une partie de la divinité. Quand un homme donne des kiddushin à une femme, avec de l'argent, ça doit être son argent, l'argent de l'homme lui-même, pas celui de son père, par exemple. Et l'argent, ça peut être sous forme de bagues ou sous forme de billets de banque, peu importe. Il lui donne. Et à ce moment-là, elle est mekoudeshet. Mais en fait, c'est l'homme qui est dans les mains de la femme à ce moment-là. Il ne peut pas se séparer de cette femme. Parce qu'il lui a donné une partie de ce qui était à lui. Pour s'en séparer, il faut un guet. Bien que les lettres se sont envolées dans les louchotes, quand Moshe Rabbeinu a brisé les louchotes, les lettres ont volé. Mais les brisures sont encore là, elles sont d'ailleurs dans le Aron HaKodesh. Donc ça veut dire, nous tenons encore Hachem. Il ne peut pas se séparer de nous. C'est pour ça qu'Hachem a dit à Moshe, Ani Chali, laisse-moi. C'est-à-dire, donne-moi les louchot. Rends-moi les louchot. À ce moment-là, je pourrais détruire le clan d'Israël. Tant que les louchot sont dans ta main, je ne peux pas les détruire. Donc Hachem a dit, je vais détruire le clan d'Israël, et je ne peux pas, parce que quelque part, ça voudrait dire me détruire moi-même, si on peut parler comme ça. Le Maharal, lui, il dit les choses un petit peu différemment, mais c'est un peu seulement un peu différent. Lui, il dit que ce sont les 10 paroles qui sont un lien entre la cause et la conséquence. C'est pour ça qu'il y avait 2 tables de la loi. Il y avait une table. Les louchotes, telles qu'on les représente comme ça, c'est faux. C'était vraiment deux tablettes séparées. Il y en avait une sur laquelle il y avait les 5 premières paroles qui sont Ben Adam Lamakom. Et l'autre, les 5 dernières, qui sont Ben Adam le Favero. Ça veut dire une pour la cause, et une pour la conséquence, c'est les relations entre les hommes. Le Maharal dit, le reste de la Torah, c'est pour la perfection de l'homme. Les Chazal ont dit encore quelque chose de un peu plus fort, ils ont dit, pour ce fameux lien des louchot, entre celui qui donne la Torah et cette Torah qu'il donne, donc, on dit que le mot Anochi, qui est le premier mot des Aseret Adibrot, il faut prendre chacune de ces lettres, ça fait Ana Nafshi Katvit Yavit. C'est mon âme que j'ai écrite et que j'ai donnée. Hachem dit, s'il veut parler comme ça, le discours d'Hachem qui est gravé dans les Luchot, c'est son âme. C'est l'âme d'Hachem, si on peut parler comme ça. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on devrait évidemment revenir. Il y a donc ici quelque chose d'assez extraordinaire. C'est-à-dire pour Rashi, il y a d'abord une alliance entre Hachem et le clan d'Israël. Et c'est dans le cadre de cette alliance déjà existante que Hachem va parler. Et dans cette alliance, il y a déjà, d'une part, le récit de la création. C'est ce récit sur lequel Chazal ont dit, c'est dans le premier Rashi de Bereshit, que cette partie-là de la Torah, c'est Koach Ma'asa Vigil Lamo. Kadosh Baruch Hu, il a dévoilé à son peuple Koach Ma'asa. Le Koach, la potentialité, ce qui est derrière toutes ces actions. En effet, le Sefer Bereshit, jusqu'à Chodesh Hazelachem, il faut comprendre pourquoi il y a une différence entre dans le Sefer. Dans la Torah, elle aurait dû commencer à Chodesh Hazelachem parce que c'est la première mitzvah. Et dans le Sefer Abrit, on va quand même un petit peu plus loin. Parce qu'à Chodesh Hazelachem, c'est au milieu des Makot. Tandis qu'on va jusqu'à Matan Torah, on va jusqu'au bout des Makot. Mais en tout cas, ce texte-là, il est là pour que nous puissions comprendre quelque chose à tout ce qui va venir après. On ne peut pas comprendre quoi que ce soit à l'histoire d'Israël, y compris à notre histoire, si on n'a pas le Sefer Bereshit, si on n'a pas le Sefer Abrit, en quelque sorte, sur lequel il y a une alliance. L'alliance avec Hachem, elle est... Qu'est-ce que c'est? C'est dans une... Pourquoi il a fallu que mon cher Aveinu réécrive tout ça? Quand... Je crois que j'avais déjà rapporté ce Midrash. Je crois que je l'avais ramené du temps de Kouma, mais il se trouve aussi dans Shemot Rabba. Chazal dit la chose suivante. Quand mon cher Aveinu est intervenu pour que Paro laisse partir donc les Bnei Israël, et que on lui a dit à Paro, ils veulent aller servir Hachem. Alors Paro a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? De quoi? Vous avez du temps pour réfléchir à des bêtises pareilles? C'est rien du tout. C'est... Alors, d'où ça vient? Le Midrash explique un petit peu la situation. Paro leur a dit, quand les Bnei Israël ont demandé à aller servir Hachem, il leur a dit, donc faites pas attention à des paroles mensongères et ne vous engagez pas à des jeux de mots. Du coup, c'est trop léger ce que, à quoi vous amusez, là. Rashi préfère, comme traduction, il dit qu'ils ne rêvent pas et qu'ils ne passent pas leur temps avec des mots qui sont du vent, en disant on va faire des corbanotes pour Hachem, etc. Après, ce que Rashi dit, Paro ne veut pas tolérer que les Bnei Israël se mettent à penser ou à disserter sur du vent. Mais sur du voir. Mais le voir, c'est du vent, mais c'est aussi l'esprit. Il veut qu'il perde contact avec la réalité, assommé de travail. Et c'est pour ça qu'il dit, en fait, à Moshe, vous distrayez le peuple de ses obligations, tous vos mots, émotés, ouais, sont des pourquoi, lama, rhétorique. Faites votre travail. Et puisque vous avez du temps pour penser à des bêtises, tour de vis supplémentaire, on ne vous fournira pas la paille. Vous fabriquerez la même quantité de briques, vous vous débrouillerez pour trouver la paille vous-même. Il leur dit Al Yishou. Les Chazal disent que les Bnei Israël en Mitzrayim, ils avaient des rouleaux avec lesquels ils jouaient d'un Shabbat à l'autre. Et dans lesquels, dans ces rouleaux, il était écrit qu'Hachem allait les libérer. Ils allaient apporter les corbanotes, qu'Hachem allait les libérer. Alors Paro leur a dit Al Yishou. Ne les laissons pas jouer. Il envisageait même de leur supprimer le Shabbat. La Yishou, c'est ce lachon de Shahashuaï qu'il y a dans le pasouk de Tehilim, si ta Torah, Hachem, n'était pas Shahashuaï, mon jeu, mon plaisir, j'aurais péri dans la misère. Loulé Toratra Shahashuaï. Il ne s'agit pas d'un jeu au sens léger du terme. Ce jeu, c'est une affaire de vie ou de mort. Ils jouent avec des rouleaux dans lesquels on leur dit qu'ils vont sortir, qu'ils vont être libérés, et qu'ils vont vivre. Alors qu'ils sont en voie d'extinction, on est en train de les tuer. Le secret de leur... ce jeu, c'est fondamental. C'est le secret de la survie, en fait. C'est une énigme. Pas encore comprise. Les rouleaux, dans ce texte, sont une espèce de... prétexte, pré-Torah, avant la Torah, un texte d'avant la Torah, mais un prétexte à interprétation, à spéculation, à plaisir. Il ne s'agit pas simplement de les lire pour qu'ils ne puissent pas le faire, pas jouer. Paro leur donne un travail plus lourd. On entend bien que c'était pour combattre la légèreté que la lecture de ces... que le travail, que le jeu avec ces rouleaux leur donnait. Ils étaient écrasés de travail, mais ils conservaient une certaine légèreté pour pouvoir penser. Les ancêtres de ce peuple, Abraham, Isaac et Jacob, ils avaient une totale confiance en les promesses d'Hachem. Ils étaient extrêmement proches d'Hachem. Mais après... les souffrances d'Égypte, les Bnei Israël se sont éloignés d'Hachem. Et les Bnei Israël vont devoir vivre, ils vont devoir naître à une nouvelle vie en quelque sorte. Ils vont devoir construire, ou plutôt reconstruire leur lien avec Hachem. Ils vont devoir apprendre à utiliser des objets qui représentent leur union avec Hachem. Ce sont ces rouleaux du Shabbat qui vont devenir les rouleaux de la Torah finalement. Paro reconnaît que la légèreté de ce jeu est extrêmement dangereuse pour lui. C'est pour ça qu'il leur impose un travail lourd. Il a reconnu que le plus grand ennemi de Paro, c'est la capacité à lire, à relire, à réinterpréter, à se réapproprier les mots du passé. Une telle lecture met en péril tout l'empire de Paris, de Paro. Paris aussi. Cette lecture donne une voie à la capacité humaine de créer d'autres mondes, en fait, de regarder les choses différemment, de lutter contre l'inertie de la nature. Ah, c'est la nature, on est obligé de faire comme ça. La Torah, elle est lue, elle est là pour être lue, pour être étudiée, pour être racontée, pour être interprétée, mais de façon peut-être encore plus vitale, pour jouer, pour donner de la légèreté. C'est en fait ce que Rashi nous a enseigné en disant que ce Sefer HaBrit, ce livre d'avant les livres, c'est un livre avant tout livre, enfin pour les Bnei Israël, avant les rouleaux de la Torah, avant que Moshe Rabbeinu décrive la Torah. On avait déjà un Sefer, un livre de l'Alliance, un livre qui est entre Hachem et le clan Israël. Comme la Torah est entre Hachem et le clan Israël. Donc c'est une pré-Torah. Comme si, pour accepter la Torah, il faut d'abord accepter la pré-Torah. Il faut s'entraîner à relire le passé, réinterpréter le passé sans fin. C'est ce que nous faisons quand on étudie la Torah. On étudie les parchiot de Bereshit. Toutes les années, on se contente pas de répéter. On est mechadesh, on essaie de trouver de nouvelles lectures, de faire résonner ces textes. Ça, on l'a appris avant Matan Torah. On a appris, on a été obligé d'apprendre pour pouvoir le faire. Pour pouvoir recevoir la Torah, il fallait avoir appris à relire et re-relire et relire et réinterpréter sans cesse. C'est la condition sine qua non de la vie. Et c'est pour ça que dans la Torah, dans le chemin par exemple, on dit les mitzvot que je te donne. Ils doivent être chaque jour, comme si je te les avais donnés aujourd'hui. Le mot hayom qui revient tout le temps dans le texte. Hayom, hayom, aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? On nous a donné ça il y a des millénaires. Non. Tu dois vivre ça, tu dois travailler pour que la chose soit vivante, comme si tu venais de la recevoir. Avec toute la fraîcheur qu'on a quand on reçoit quelque chose de nouveau. C'est la condition sine qua non pour que la Torah joue son rôle et pour que ce soit vraiment de la Torah. Sinon, c'est un livre peut être aussi un livre mort. La Torah aussi, si les gens qui la lisent ne sont pas vraiment vivants et s'ils ne la font pas vivre, elle ne va pas vivre toute seule. Elle peut devenir lettre morte. Elle peut devenir une idole. C'est aussi un moyen de la rendre morte. Hazal, l'idole, c'est les morts. C'est ce qui est mort. Voilà.